Vous écoutez, on lit pour vous.
Maladie rare, s'accrocher à l'espoir. Un dossier de Suzanne Colperon, publié le 14 novembre 2025 dans La Presse. À Sainte-Dorothée, Nathalie de Passillé fonde de grands espoirs sur un traitement expérimental qui pourrait freiner la progression de la maladie rare dont souffre son fils de 16 ans. Pendant ce temps, des associations de patients cherchent toujours à savoir où sont passés les 305 millions versés par Ottawa pour ces maladies. Le jeune Simon est atteint de la maladie de Huntington, affection héréditaire, dégénérative et mortelle. À 16 ans, Simon sait déjà que sa vie ne sera pas comme celle des autres. Il ne conduira jamais d'auto. Il ne fera jamais l'amour, il n'aura jamais une relation stable. Sa mère, Nathalie de Passillé, le dit sans drame, mais sans détour. Son fils est atteint de la maladie de Huntington. Cette affection héréditaire, dégénérative et mortelle, provoque la destruction progressive des cellules du cerveau, entraînant des troubles du mouvement, de la mémoire et du comportement. Elle a déjà vu ce que cette maladie peut faire. Le père de Simon, Christian, en est mort à 48 ans, en janvier 2024, après une longue hospitalisation, une tentative de suicide et 3 demandes d'aide médicale à mourir. C'était insupportable. Il souffrait trop, dit-elle. Quelques mois plus tard, le diagnostic est tombé pour Simon. Lui aussi est atteint. Tout a commencé par une chute brutale de ses notes à l'école, à l'automne 2024. « J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas », dit sa mère, assise près de son fils dans le salon de leur appartement de Sainte-Dorothée. Des tests sanguins ont confirmé ses craintes. Simon a 66 répétitions du gène CAG, bien au-delà du seuil de 40 qui annonce la maladie. Chez lui, la forme est juvénile, plus rare et plus agressive. Aujourd'hui, il tombe souvent en marchant, a du mal à parler et s'étouffe parfois en mangeant. Un monde qui se rétrécit. L'école est devenue une épreuve. Il échoue dans presque toutes les matières, et s'isole. Il n'a plus d'amis. Il n'a plus de façon dans sa vie d'être fier de lui. Son univers, c'est moi, le chien et sa sœur. Dans sa chambre, pour se sentir bien, il met plein de doudous et il se colle dedans. Nathalie de Passillé, mère de Simon. C'est comme s'il s'était créé un endroit dans sa tête. Poursuit-elle. Quand ça va très, 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 très mal, Simon prend l'urne contenant les cendres de son père, posée sur la table du salon, et s'enferme dans sa cabane. Lueur d'espoir. Longtemps appelée Corée de Huntington ou danse de Saint-Guy, cette maladie provoque la mort des cellules situé dans une région centrale du cerveau. Aucun traitement ne permet aujourd'hui de la soigner, d'en retarder l'apparition ou d'en ralentir la progression. Les médicaments existants ne servent qu'à calmer certains symptômes. Mais une lueur d'espoir est apparue récemment aux Pays-Bas, où l'entreprise de biotechnologie UniCure teste un traitement expérimental d'une ampleur inédite. Le protocole consiste en une seule injection directement dans les zones cérébrales atteintes. Les chercheurs y introduisent un vecteur viral qui éteint le gène défectueux responsable de la maladie. Dans une étude menée sur 29 patients, sans placebo prolongé pour des raisons éthiques, Les chercheurs ont observé un ralentissement de 75 % de la progression de la maladie sur une période de 3 ans. Autrement dit, une détérioration qui surviendrait normalement en 1 an s'étale sur 4 ans. C'est beaucoup d'années, constate Gilles Tossing, chercheur en neurosciences au CHUM, lui-même issu d'une famille touchée par la maladie. Et c'est une seule intervention. Après, c'est bon en principe pour le reste de la vie des patients. Encore loin du Québec. Malgré ces résultats prometteurs, le traitement n'est pas encore autorisé. Simon pourrait-il en bénéficier? Ça va dépendre de la position que va prendre Santé Canada, répond M. Tossing. Pour les essais cliniques, il faut faire 3 phases avant qu'un médicament puisse être sur le marché. Dans ce cas-ci, l'essai n'a franchi que la phase 2 et la Food and Drug Administration, FDA, américaine, a refusé d'autoriser une procédure accélérée, estimant que le groupe contrôle ne suffisait pas à confirmer les résultats. UniCure devra donc lancer une phase 3 plus classique, ce qui repousse l'accès au marché d'environ 6 ans. Une ouverture plus rapide pourrait toutefois venir d'Europe. L'entreprise négocie actuellement avec la Grande-Bretagne et des pays européens pour obtenir un accès anticipé qui permettra une autorisation d'ici 2 ou 3 ans. S'ils reçoivent le statut accéléré là-bas, c'est comme des pièces de domino. Une fois qu'un pays ou un continent l'a accepté, les autres vont suivre rapidement, explique le chercheur. La vie continue. Pour Nathalie de Passillé, cette perspective constitue un espoir. Tout ce que je demande, c'est est-ce qu'on peut participer à la recherche? Allongé sur le sofa, Simon écoute sans rien dire. Il bouge sans arrêt ses jambes, incapable de rester immobile. « Ça va, Simon? » « Oui, » dit-il en caressant son chien Winston avant de se pencher vers sa mère pour lui chuchoter « Je t'aime. » En savoir plus. 1300. Nombre estimé de personnes atteintes de la maladie de Huntington au Québec. 50 %. Si un parent est atteint de la maladie de Huntington, son enfant a 1 chance sur 2 d'hériter du gène défectueux. C'était Maladie rare, s'accrocher à l'espoir. Un dossier de Suzanne Colperon, publié le 14 novembre 2025 dans La Presse.
Âgisme et sexisme, le double fardeau des travailleuses âgées. Un texte de Maude Goyer, paru le 4 novembre 2025 dans La Presse. Elles ont l'expérience, le savoir-faire et l'engagement. Pourtant, les travailleuses de 45 ans et plus se disent souvent jugées, tassées et invisibilisées. Elles subissent de l'âgisme et du sexisme au point de perdre la motivation, de se désengager et, parfois, de carrément partir. C'est ce que démontre une vaste et récente étude réalisée par Martine Lagacé, professeure de communication à l'Université d'Ottawa et à l'École de psychologie du même établissement. Celle qui étudie l'âgisme depuis 25 ans a sondé 450 femmes âgées de 45 ans et plus qui travaillent principalement en éducation, en santé, en vente et services et en administration. La chercheuse a découvert que si la majorité des répondantes, 84 % se disent satisfaites de leur emploi, 27 % considèrent qu'elles subissent de l'âgisme ou du sexisme. Elles ont par exemple témoigné qu'elles avaient moins d'occasions de gravir les échelons, comme si leurs compétences ou leur expérience s'étaient évaporées avec l'âge. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la perception générale des femmes qu'elles subissent de l'âgisme multiplié par le sexisme, explique Mme Lagacé. C'est comme une toile de fond, c'est implicite. Des préjugés qui font mal. Les travailleuses de 45 ans et plus déclarent qu'elles sont traitées différemment de leurs collègues masculins ou encore de leurs collègues féminines plus jeunes. Même si elles détiennent un diplôme universitaire, 55 % et qu'elles sont en bonne santé physique et mentale, 88 % elles se sentent durement jugées et discriminées. Le regard qu'on porte sur elles est biaisé, indique la professeure Martine Lagacé, comme si elles avaient perdu des compétences, l'engagement, la motivation, bref, l'enthousiasme de travailler. La recherche démontre une fracture entre les genres et une fracture générationnelle. Martine Lagacé précise que plusieurs études ont démontré à travers les années que les travailleurs de 45 ans et plus, hommes et femmes, ne s'absentent pas davantage que les jeunes travailleurs. Au contraire. Partir à la retraite. Eva Hartling, fondatrice de l'agence Femmes de marque, a échangé avec plus de 300 femmes entrepreneurs dans le cadre de son balado. Elle fait le même constat. Beaucoup de femmes quittent des postes de direction, non pas par manque de compétences, mais parce que la société associe encore l'âge à la perte de valeur, dit-elle. Tant que la maturité féminine sera invisibilisée ou perçue comme un déclin, l'âgisme va persister. Selon Martine Lagacé, l'attitude négative envers les travailleuses plus âgées les pousse à changer d'emploi ou à prendre une retraite hâtive. Quand tu sens que tu es exclu des canaux de communication, des promotions, de plus grand accès technologique, tu te sens dépassé et mis de côté, précise la spécialiste. Il y a une baisse de satisfaction au travail et tu songes alors soit à changer d'emploi, soit à te retirer du marché du travail. La chercheuse rappelle que cela a un coût individuel et organisationnel. Ça fait mal à la travailleuse qui ressent un profond désengagement et ça fait mal au milieu de travail aussi, note-t-elle, en faisant un lien avec toutes les connaissances acquises et pas nécessairement transmises. Par où commencer? Des solutions existent pourtant, avance Eva Hartling. Elle croit qu'il faut changer le discours culturel et organisationnel. Par exemple, la formation des gestionnaires, l'instauration de politiques flexibles ainsi que l'intégration de la périménopause et de la ménopause dans les politiques de diversité et d'inclusion sont des pistes à explorer. Mais surtout, il faut changer le récit collectif, confie-t-elle. Les femmes de plus de 40 ans sont des modèles de leadership et de confiance. Martine Lagacé martèle quant à elle qu'il faut passer à une autre vitesse. Elle en a assez de parler de sensibilisation, de formation et de conscientisation. Je pense qu'il faut dépasser ce stade et mettre en place des mesures légales plus serrées, dit-elle. Les employeurs doivent être imputables. On veut des milieux de travail véritablement diversifiés, pas seulement en termes de genre ou d'origine, mais aussi d'âge. Cela va passer par des mesures tangibles, comme des lois. C'était « Âgisme et sexisme », le double fardeau des travailleuses âgées. Un texte de Maude Goyer, paru le 4 novembre 2025 dans la presse.
Pour une pochette de collation santé. Un texte de Nathalie Morissette, paru le 10 novembre 2025 dans la presse. Happy Titi est né en même temps que le fils de Raphaël O'Haro. En 2020, à la naissance d'Antoine, cette mère de famille a tout fait de réaliser que les collations pour emporter en vente sur le marché contenaient trop de sucre et trop d'agents de conservation. C'est ce constat qui lui a donné l'inspiration pour créer Happy Titi et ses smoothies santé, vendus en pochette depuis septembre 2025. C'était mon premier enfant, donc on était à la recherche de ce qu'il y avait de mieux, surtout en matière d'alimentation, raconte l'entrepreneur au bout du fil. De son propre aveu, Mme O'Haro a toujours apprécié ce type de collation, en format pochette, qu'on peut manger sur le pouce au cours d'une sortie familiale ou encore glisser facilement dans la boîte à lunch. Mais en mettant dans son panier d'épicerie ses différentes compotes en pochette offertes sur les tablettes, elle a vite fait un constat. Même si elles avaient des saveurs et des ingrédients différents, elles goûtaient plus ou moins la même chose, en ayant des agents de conservation et des taux de sucre élevés. Il y a une dissonance entre ce qu'on nous recommande et finalement ce qu'on nous offre sur le marché pour alimenter nos enfants. Je me suis dit, je vais les faire moi-même, les fruits mixés, les smoothies. Donc de là est venue l'idée, la réflexion, de me lancer en affaires et de proposer des smoothies en pochette pour les enfants. Seule face à elle-même dans sa cuisine, Raphaël O'Haraud a finalement rejoint Mycelium, un incubateur de Québec pour les entreprises travaillant dans la transformation alimentaire, afin de créer des smoothies santé qui se déclinent en trois variétés. Pomme-betterave, banane-fraise-framboise, ainsi que mangue-ananas-courgette. Son conjoint, Jérémy Saed, a également pris part à l'aventure. L'objectif était évidemment d'offrir une solution de rechange à ce qui existe déjà. De fil en aiguille, j'en suis arrivé à un produit pressé à froid, contrairement aux autres produits qui sont pasteurisés à chaud, avec de la cuisson qui détériore les valeurs nutritives, qui détériore le goût. Ce qui a fait notre différence, c'est un produit frais, sans agent de conservation, sans sucre et qu'on le retrouve en rayon réfrigéré. C'est pour ça qu'on l'appelle smoothie, parce que ce n'est pas une compote en pochette classique que l'on retrouve sur les tablettes à température ambiante. Le couple dont les bureaux sont situés à Montréal élabore lui-même ses produits dans une cuisine industrielle des Laurentides. Depuis septembre, les smoothies signés Appetiti sont vendus dans les frigos d'une quarantaine de magasins, notamment dans les supermarchés Avril. Le duo planche actuellement sur sa nouvelle gamme de produits, faits à base de lait fermenté, pour offrir une option plus santé au yogourt à boire. Sur ces produits, on lit souvent des noms d'ingrédients comme « arôme naturel de banane », « arôme naturel de framboise ». Donc, il y a zéro fruit. On veut arriver avec des smoothies à base de lait fermenté avec de vrais fruits. Un coup de pouce de Donald Trump. Par ailleurs, les deux entrepreneurs ont suscité l'engouement de certains détaillants québécois grâce au président américain, Donald Trump, et à ses droits de douane. En réaction aux décisions de la Maison-Blanche, des épiciers d'ici ont contacté Appetiti, car ils cherchaient une solution de rechange locale aux pochettes réfrigérées aux fruits de l'entreprise californienne Once Upon a Farm. Il s'agit du principal concurrent au smoothie d'Appetiti, selon Raphaël O'Haraud. On commençait à travailler sur notre lancement à plus grande échelle, et puis finalement, c'est arrivé plus vite que ce qu'on avait imaginé. Aujourd'hui, nous sommes la seule option locale. Pourquoi Appetiti? Il existe une multitude de collations destinées aux enfants et à la boîte à lunch sur le marché, mais elles n'offrent pas toutes de bonnes valeurs nutritives. C'est à partir de ce constat qu'Appetiti a été créé, avec l'ambition d'offrir une option locale et santé. C'était « Pour une pochette de collations santé », un texte de Nathalie Morissette, paru le 10 novembre 2025 dans La Presse.
Déjouer le froid au club des échecs amoureux. Un texte de Simon Gionnet, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir. Un soir par mois, des dizaines de Montréalais se retrouvent autour d'une partie d'échecs dans l'intimité du café Ferlucci à Villeray. Ce qui les unit au-delà de ce jeu? Ils sont dans la vingtaine ou la trentaine, souhaitent temporairement outrepasser les interactions en ligne et ont trouvé dans le club des échecs amoureux un précieux espace de rencontres et d'échanges pour leur génération. Le Devoir s'est invité le temps d'une soirée. « Je joue non-stop », admet le fondateur du club, Hamza Aboué-Louafa, qui raconte avoir eu la piqûre des échecs en découvrant il y a 2 ans l'application chess.com. Par habitude, il est arrivé en avance au café Ferlucci pour préparer les tables et saluer les baristas, apportant un large sac contenant les échiquiers colorés et les pièces qui serviront pour la soirée. Après 1 an à jouer, je sentais qu'il manquait quelque chose. Évidemment, c'est le contact humain, poursuit celui qui travaille comme photographe et édimestre. Naît alors l'idée de créer un petit club d'échecs qui pourrait, un soir par mois, répondre à ce besoin de communauté. Le choix de l'organiser au Ferlucci, son café de quartier préféré, s'est vite imposé. L'engouement s'est senti dès la première édition en février 2025, dit-il. Chaque premier mardi du mois, l'événement rassemble entre 30 et 50 personnes, surtout des vingtenaires et des trentenaires. Un espace qui se veut mixte, ouvert aussi aux personnes queer et dont la forme est loin d'être rigide, précise Hamza. Des rencontres se sont tenues au parc Jarry durant l'été. Un tournoi caritatif en soutien à la Palestine a été organisé en septembre. Puis une édition s'est faite en collaboration avec le Festival Triste en novembre 2025. Je pense que les gens sont friands de ce genre de rencontres humaines qui brisent justement le mur virtuel, le mur de nos cellulaires, explique le trentenaire. Surtout à l'âge adulte. C'est juste une fois par mois, mais je vois l'oxygène que ça apporte aux gens. Il est presque 18h30 et les premiers participants commencent à entrer au café. Hamza les accueille chaleureusement, prend de leurs nouvelles, s'affaire à installer le matériel sur les tables réservées. Dans son petit cahier qu'il gardera avec lui tout au long de la soirée, il note le nom des joueurs à mesure qu'ils arrivent pour orchestrer des parties d'échecs. L'un des premiers arrivés, Matisse Chauveau, a décidé de prendre quelques heures pour venir ici, malgré sa dernière année d'études en médecine. C'est comme une excuse pour prendre du temps, pour se reposer et se relaxer, dit-il. Dehors, il fait moins 11 degrés centigrades et une trentaine de personnes s'entassent à présent dans la section du café réservée au club. L'endroit s'anime au rythme des conversations et des premières parties. Les habitués se saluent, d'autres font connaissance pour la première fois. C'est Hamza qui choisit les adversaires de chaque partie et supervise leur déroulement. Chacune dure habituellement 14 minutes, à raison de 7 minutes par personne. Le club d'échecs, ça peut faire peur, mais ici, il n'y a pas de pointage, c'est un peu broche à foin, indique Hamza. Quand on commence, forcément, il y a un peu cette pression et cette peur d'avoir honte ou de passer pour moins intelligent, convient Roxane Jardel, dont la première expérience au club était en novembre 2025. Peu importe leur expérience, la majorité des joueurs rencontrés confirment avoir développé leur intérêt pour les échecs durant la pandémie. L'application chess.com, qui a connu une croissance fulgurante dans le monde en raison de la crise sanitaire, et la populaire série Netflix de Queen's Gambit, revient souvent dans les discussions. « J'apprécie beaucoup l'aspect communauté du club », confie Éric Châtaignier, qui travaille la moitié de l'année comme pompier forestier en Colombie-Britannique. Ça remplit un vide. Puisque je pars pendant 6 mois, ça ne me permet pas toujours de créer des relations aussi solides. » Assise près de la fenêtre, sa sœur, Sabine, contemple discrètement les parties en cours tout en tricotant au crochet comme à son habitude. Amie de Hamza et employée du Ferlucci, c'est elle qui a initié Eric au club. Elle est présente pour soutenir le projet de son ami et profiter de l'atmosphère conviviale. « Je préfère tricoter à côté, puis observer et apprécier la soirée », résume l'étudiante en design. Carnet et stylo en main, Hamza note attentivement les fins de match et assigne les nouvelles parties. Le soin qu'il investit dans cette soirée transparaît, que ce soit dans l'accueil chaleureux qu'il réserve aux participants, le dessert qu'il a apporté au barista, l'agilité avec laquelle il supervise les parties ou la playlist jazz qu'il a créée pour cette soirée. Eva Caruso, barista au Ferlucci, travaille chaque soir de l'événement. « Souvent, les soirs d'hiver, c'est bien tranquille. Ça amène de la vie », confie-t-elle. « Quand on vieillit, notre cercle d'amis se rétrécit. Je trouve que c'est vraiment une belle façon pour notre groupe d'âge de rencontrer des personnes à l'extérieur du travail ou de l'école. » On dirait qu'il y a beaucoup d'événements sociaux qui se passent tout le temps autour de l'alcool et de la consommation, tandis que là, les échecs amoureux s'écartent un peu de ça, confie Maggie Hébert, qui a aussi fait ses armes aux échecs en ligne. Au moment d'entendre parler du club par sa copine, Elie Saoud se souvient pour sa part être tombée sur les travaux du politologue américain Robert Putnam, qui a étudié la relation entre le déclin des clubs et l'augmentation de la solitude aux États-Unis. « Je pense que ça m'a aussi motivé à venir ici », admet-il. Vers la fin de la soirée, autour de 20h30, Hamza profite du calme pour s'offrir une petite partie. Il remballe les échiquiers et salue les participants à mesure qu'ils partent affronter le froid, tandis que les baristas s'apprêtent à fermer boutique. Un nouveau participant, plus timide, confirme à Hamza qu'il a aimé l'expérience et qu'il compte revenir le mois suivant. Plus tôt en entrevue, Hamza s'avouait touché par le nombre de personnes qui sortent de chez elles pour s'adonner à une partie, sans savoir pourtant qui elles croiseront. Même en hiver ou durant des journées dégueulasses de pluie, les gens viennent quand même, disait-il. Je suis rempli de fierté pour tous ces gens qui brisent l'isolement. C'était « Déjouer le froid au club des échecs amoureux », un texte de Simon Gionnet, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir.
Un feu d'artifice neuronal. Un texte de Philippe Mercure, paru le 12 octobre 2025 dans la presse. Lire active de nombreuses zones et de nombreux réseaux du cerveau. En voici quelques-uns. Réception d'informations. Le thalamus, qu'on peut décrire comme le centre de relais du cerveau, envoie les mots vers le centre visuel situé dans le lobe occipital. Décodage. Chez les lecteurs débutants, la région pariétale temporale de l'hémisphère gauche est utilisée pour briser les mots en différents sons appelés phonèmes. Le cerveau décode ce qu'il lit en associant chaque lettre à chaque son. Reconnaissance des lettres et des mots. Le centre visuel du lobe occipital est responsable de la reconnaissance des lettres et des mots. Chez le lecteur expérimenté, une zone spéciale appelée R de la forme visuelle des mots est utilisée pour reconnaître rapidement les mots sans devoir les décoder. Cette région a été originellement développée pour reconnaître les visages et réutilisée à d'autres fins pour la lecture. Un phénomène appelé recyclage neuronal. Connexion entre le visuel et le langage. Chez les lecteurs expérimentés, les zones vouées au langage sont fortement impliquées dans la lecture, notamment l'aire de Broca, production de mots parlés, et l'aire de Wernicke, compréhension du langage. L'habileté de lire consiste essentiellement à créer un lien consolidé, une autoroute entre le centre du langage et le centre visuel du cerveau, dit Karen Cohen-Cazes. Compréhension du texte. La compréhension du texte s'effectue à l'aide du réseau temporo-pariétal frontal inférieur. Même le cortex moteur est sollicité. Par exemple, si vous lisez le mot « kicker », la région de votre cortex moteur associée au mouvement de la jambe sera activée. À cette étape, des réseaux entiers et sophistiqués sont impliqués. C'est le sommet du G7 dans votre cerveau, illustre Karen Cohen-Cazes. C'était « Un feu d'artifice neuronal », un texte de Philippe Mercure, paru le 12 octobre 2025 dans la presse.